Radio Larzac vous présente Mémoire crue, une création sonore réalisée en partenariat avec le syndicat mixte du bassin versant Tarn-Amont et la ville de Millau, à l'occasion des 40 ans de la crue de 1982.
Quand on annonçait une crue à 10 mètres de haut, personne ne voulait nous croire.
On venait de me donner un permis de construire, donc je me sentais à l'abri des inondations.
Quand l'eau monte, vous ne pouvez rien faire.
Ça faisait blou, 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 et l'eau montait par l'intérieur des toilettes.
Et on nous a sortis par la fenêtre.
L'atmosphère était pesante, on entendait passer les pompiers, les gens ne parlaient plus.
Le 8 novembre 1982, en effet, c'était le grand silence à Millau. Interrompu sûrement par les sirènes des pompiers et le bruit de l'urgence généralisée pour mettre à l'abri ce que l'on pouvait encore sauver des eaux impétueuses du Tarn et de la Dourbie. Mais aujourd'hui, 40 ans après la crue du siècle, celles et ceux qui étaient là rompent ce silence et prennent la parole pour témoigner.
Je m'appelle Didier Martinez et je suis le président de l'association des riverains du Tarn et de la Dourbie.
Jean-Marie Aiguille, et en 1982, j'étais sapeur-pompier volontaire sous-officier au centre de secours de Millau.
Je m'appelle Marie-Paul Lacombe. À l'époque, j'étais secrétaire à la mégisserie de Ruy, rue de la Sonnerie.
Lionel Lemoine, il se trouve que je suis arrivé à Millau en 1982. J'ai été nommé secrétaire général de la sous-préfecture.
Michel Guérin, j'ai bientôt 80 ans, j'étais directeur de banque dans l'avenue Alfred Merle.
Je m'appelle André Martel, j'étais concessionnaire automobile sur la route de Creissel avec un garage détruit à 100%. J'étais absent de Millau ce jour-là. Lorsque j'ai débarqué, le garage n'en voyait que le bardage. Tout avait disparu.
La crue a été identifiée comme ça, c'est-à-dire qu'en principe, le Tarn est en crue, ou la Dourbie est en crue avant le Tarn, ou le Tarn est en crue avant la Dourbie. Les deux ne se rejoignent pas en crue en même temps. Et là, sur ce coup-là, sur les deux versants des Cévennes, l'eau est arrivée en même temps au confluent, au pont de Curplat. Et c'est ce qui a occasionné cette montée des eaux relativement phénoménale, parce que les deux rivières en crue sont arrivées au même moment, au même endroit.
Ça a commencé le dimanche, puisque le 8 novembre, c'était un lundi. Donc, le temps s'est couvert, il y avait du vent, il pleuvait.
La crue, elle n'est pas arrivée comme ça spontanément. Il y a eu un épisode de vent violent toute la journée du dimanche. D'ailleurs, il y a l'anecdote du pylône qui est tombé sur l'école du Puy-de-Calais, où on a été mobilisé toute la journée pour aller chercher des cheminées qui étaient tombées, des panneaux publicitaires, etc.
Et là, donc, mon père étant chauffeur mécanicien chez De Ruy, on nous a envoyé à la glacière pour démonter les moteurs, parce qu'effectivement, ils avaient peur qu'ils trempent dans l'eau. Et vers 16h, on a eu de l'eau jusqu'à la taille. Et là, bon, le dernier moteur, on ne l'a pas démonté et on a dégagé. On était tous sur le qui-vive. Donc, le soir, la nuit arrivée, la grosse voiture américaine des pompiers, toutes les demi-heures, donnait la montée de l'eau.
Et l'alerte de crue en tant que telle a commencé le dimanche en fin de soirée où, d'après les indicateurs que nous en avions du niveau de crue à Florac et à Nantes, laissait présager que sur Millau, ça allait monter très très fort et très très haut.
À la mégisserie de Ruy, on a commencé à travailler normalement jusqu'à ce que les alertes soient données de façon beaucoup plus précise. Donc à partir de là, les salariés de l'entreprise ont commencé à essayer de mettre les marchandises et les machines en sécurité, sans se douter quand même que ça allait monter aussi haut. Et ma collègue qui habitait à Rivière-sur-Tarn a reçu un appel de son mari en disant « rentre parce que la route va être coupée ». Donc elle est partie. Ma deuxième collègue a été avertie elle aussi en disant « même si elle habitait au troisième étage, dépêche-toi de rentrer parce que tu ne pourras plus rentrer à la maison. Et elle est partie aussi. Et moi, je suis restée. Mon patron de l'époque, Arthur Deruy, me dit, donc, il faut rester là, il faut que quelqu'un reste là parce qu'il y a encore des coups de téléphone de clients. Il faut qu'on puisse répondre au téléphone. Donc, j'ai pris l'initiative d'aller aider un couple de salariés de l'entreprise, monsieur et madame Martinez, qui habitaient aux rues de la Sonnerie, qui étaient les gardiens de l'usine, avec leur fils Didier. Et j'étais allée les aider à essayer de mettre en sécurité tous les meubles qu'ils avaient au rez-de-chaussée. Et au fur et à mesure, tout le monde qui commençait à s'affoler, ça monte. On disait, Malrieux va être inondé, la Jolival va être inondée, la Cité d'Écosse va être inondée, les caves sont inondées. Et personne ne me disait de partir. Et à 22 ans, moi, je n'osais pas dire à mon patron, je m'en vais. Et à cette usine, nous avions les toilettes qui étaient en rez-de-chaussée. Et je vais aux toilettes. Et à ce moment-là, en allant aux toilettes, ça faisait blou, 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 blou. Et l'eau montait par l'intérieur des toilettes. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, là, ma fille, téléphone, pas téléphone, commande, pas commande, tu te casses. Et donc, j'ai pris mes jambes à mon cou et je suis rentrée chez moi.
Au fur et à mesure, bien évidemment, la population a été confrontée au problème et nous a sollicité. Le premier problème, ça a été la réaction de la population, parce que personne n'avait vu une telle crue. Quand on annonçait une crue à 10 mètres de haut, et nos services ne s'étaient pas trop trompés, puisqu'elle a fini à 9,80, personne ne voulait nous croire. Et personne ne s'imaginait où c'est que ça allait monter à 9,80 m. Personne ne matérialisait où c'est que ça allait monter. Alors imaginez, aujourd'hui, vous avez l'eau qui arrive à peine dans votre cour, et deux heures après, vous l'avez au premier étage. Donc les secours se sont organisés, après, au fur et à mesure de la demande de la population, par des évacuations à dos d'homme.
On nous a évacués par la fenêtre du premier étage, parce qu'on s'était réfugié au premier étage, et on nous a sortis par la fenêtre. C'était à l'époque l'entreprise Sévigné qui avait mis un gros engin Caterpillar, et on nous a sortis sur le godet. Et ce qui m'a le plus frappé, je me souviens donc qu'ils nous mettent en sécurité, et il y avait une dame qui avait tout perdu, parce qu'en montant dans le godet, elle était âgée, elle avait tombé son sac, où elle avait toutes ses économies, tous ses papiers. Et la pauvre, elle était complètement désespérée.
Le lundi matin, quand la crue était en pleine évolution, lorsqu'on a été dépêché avec une équipe sous les ordres du lieutenant Carteriad pour aller secourir les gens qui étaient dans un hangar, une entreprise de primeur de Millau, on a essayé par tous les moyens de mettre le Zodiac à l'eau pour aller les chercher. C'était impossible, vu la furie des eaux. Et heureusement qu'on ne l'a pas mis à l'eau, parce qu'on ne serait peut-être plus là aujourd'hui qu'on aurait vu la furie des eaux. Et ces personnes-là ont été finalement secourues par les hélicoptères.
Je suis descendu un petit peu dans la zone des ondes, et c'est là que j'ai vu les litreuillages la nuit avec un projecteur, de gens qui étaient sur un hangar de marchands de primeurs. Ça, c'était très émouvant.
C'est une fois que l'eau s'est retirée qu'on voit l'ampleur des dégâts.
Il a fallu attendre que l'eau disparaisse. Et alors là, c'était pratiquement impossible parce qu'une cinquantaine de voitures avaient disparu dans la rivière où très peu ont été retrouvées. Les pompiers sont venus avec deux camions pour nettoyer tout ce qui était possible de nettoyer et remettre de l'ordre et enlever ce qui gênait pour remettre l'entreprise sur de bons rails. J'ai rouvert la concession un an après. Et malheureusement, il y a eu du bon moment et de très mauvais moments. Le très mauvais moment a été le manque de soutien flagrant de la municipalité de l'époque.
Les sapeurs-pompiers de Millau sont intervenus quasiment tout seuls sur ce phénomène-là. On était 45-50. On a été renforcés par 5-6 plongeurs de l'équipe départementale. On a pris tout ça en main sous le commandement du commandant Jean Lacombe, qui était chef du corps des sapeurs-pompiers de Millau. Et à ce titre-là, les sapeurs-pompiers de Millau ont longtemps eu une grosse amertume là-dessus, qui n'ont jamais eu de distinction ni de récompense collective pour cette action-là.
Mon sauveur est venu à la personne de M. Jean Lacombe, le capitaine des pompiers, et qui m'a dit « on ne vous laissera pas tomber, on arrive ». Sans lui, l'entreprise n'aurait pas existé.
Alors les jours suivants, ça a vraiment fait mal au cœur, hein, parce que moi je me souviens, déjà le soir même, quand la décrue s'est annoncée, c'était une ville fantôme, quoi. Il n'y avait plus personne, il y avait une odeur nauséabonde de vase qui se dégageait.
Dans l'entreprise, on avait des chariots de peau complètement abîmés, toutes les machines-outils, tous les moteurs, tout avait été encrassé dans la boue, etc. Donc déjà, nous, notre outil de travail, il fallait aussi le remettre en état. À l'époque, moi, je faisais partie des guides de France, donc on avait mis en place des équipes pour aller aider les gens chez eux, essayer de nettoyer et... On était tous très tristes de ce qui s'était passé et puis choqués. On était à l'état de choc, on faisait des gestes assez machinaux. C'était la drôle de journée, l'après.
Quand la crue donc, est partie, il y a eu un énorme élan de solidarité. On a retroussé les manches et on s'est mis à nettoyer. Mais spontanément, il n'y a pas eu besoin de se dire « je vais aider mon voisin ». Ça a été formidable.
Il a fallu se battre. Tout mon personnel est venu me donner des coups de main, des amis, des voisins.
Je me suis dit, aïe, 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 il va y avoir encore l'arrêté de catastrophe naturelle qui va paraître quelques semaines après. Comment faire pour aider les gens qui ont tout perdu, y compris leur papier d'identité? Et à ce moment-là, avec les photographes, des particuliers, décision a été prise de faire une plaquette pour trouver de l'argent disponible immédiatement à des sinistrés et pour que, en dehors de la mécanique administrative, la mairie puisse avoir du cash immédiat pour donner des sous à ceux qui étaient réellement dans le besoin et qui avaient tout perdu. Alors la plaquette s'est été vendue sans bénéfice par tout un tas de gens dans Millau. Les gens achetaient ça par 10, par 20.
Les gens avaient perdu la culture du risque. Donc, nous, à chaque assemblée générale qu'on fait, on leur dit qu'il y a des moyens de prévention à respecter. Aujourd'hui, donc, par les journaux, on explique ce qu'il faut faire ou pas. Mais ça, c'est très important parce que les gros problèmes arrivent à des gens qui vont chercher leur voiture dans des souterrains et qui se noient. Donc ça, il faut absolument, absolument que ça rentre bien dans la tête des gens. Il y a des règles, il faut les respecter.
J'ai changé mes habitudes, sachant que quand il y a du vent, j'évite d'aller me promener là où il y a, peut y avoir des chutes d'arbres et d'objets. Sachant qu'au bord du Tarn et de la Dourbie, les arbres qui sont là, ce sont des arbres qui peuvent être fragilisés. J'évite d'aller voir si l'eau monte, de me mettre les pieds dans l'eau à ce moment-là.
Il y a eu une prise de conscience des Millavois du fait qu'il fallait qu'on prenne en compte ces difficultés et qu'on trouve des solutions. Le risque est inhérent à la vie. Simplement, la prise en compte de l'inondation à Millau, mais comme dans tout le pays, a permis de créer un certain nombre de contraintes qui, en contrepartie, limitent les dégâts. Dire qu'il n'y a pas de zone inondable, ce n'est pas vrai, il y en a toujours. Simplement, aujourd'hui, on qualifie des zones et on construit en fonction.
C'est vrai, la vie est un risque. Mais connaître les risques, c'est le premier pas pour y faire face. À leur manière, les voix que vous venez d'entendre nous sensibilisent et témoignent du passé pour regarder l'avenir. Faire vivre la mémoire de la crue de 1982 dans le Millavois est nécessaire pour habiter ce territoire. Merci à Jean-Marie Aiguille, Michel Guérin, Marie-Paul Lacombe, Lionel Lemoine, André Martel et Didier Martinez pour le courage de leurs paroles.
Prenons le temps qu'il faut pour laisser passer les cours d'eau jusqu'au dernier bateau. On trouvera la vie qu'il nous faut.
C'était Mémoire crue, une création sonore de Radio Larzac, en partenariat avec le syndicat mixte du bassin versant Tarnamont et la ville de Millau. Réalisation et montage de Sofia Pavanini. Prise de son d'Alex Querel, Nicolas Galtier et Sofia Pavanini.